Donc, les résultats du premier semestre, l'effet marquant. Donc, la prise de participation majoritaire dans EasyLead, nous vous l'avions dit, il se trouve que le closing a eu lieu au cours du mois de janvier, donc c'est pour ça qu'il est marqué ici dans l'effet marquant. Donc, nous sommes maintenant propriétaires de cette société de fabrication de batteries au lithium, ce qui nous donne aussi cette capacité maintenant en interne d'intégration amont sur les produits 100% électriques que nous développons. Nous avons aussi finalisé l'acquisition d'une société de services, GLA, en Italie, dans la région d'Émilie-Romagne, qui est toute proche d'ailleurs de notre siège italien. Investissement, nous poursuivons les investissements, on en parlera aussi financièrement, et l'impact financier, de ces investissements. Donc, nous poursuivons ça avec une installation automatisée pour les pièces, c'est-à-dire que notre croissance de volume se traduit aussi par des capacités supplémentaires d'automatisation de distribution de pièces de rechange. Donc, on a ici des racks intégralement automatisés selon les commandes des clients. Voilà, donc je m'arrête juste un instant. Nous voilà tous, comme je vous l'ai dit, il y avait juste un tout petit souci technique. Non, pas de problème, Hervé, j'ai prévenu tout le monde. Mais du coup, nous avons commencé comme il y avait la première partie. Voilà, donc je me remets sur la présentation. Voilà, centre de mécano-soudure à Scandé, vous l'avez peut-être vu dans la presse, mais un investissement de 60 millions d'euros pour nous donner des capacités là de mécano-soudure, donc d'intégration amont sur la partie tourelle, châssis et structure pour les nacelles. Hein, nous avons déjà investi dans une usine d'assemblage à Candé, et là nous avons maintenant deux usines d'assemblage à Candé et bientôt un centre de mécano-soudure à horizon 2025, qui était dans le plan, qui sera en addition, pardon, du plan New Horizons 2025 en termes d'investissement pour nous donner plus de capacité et plus d'agilité sur la partie mécano-soudure de nos nacelles. Des faits marquants aussi en ce qui concerne la RSE qui avance toujours plus loin pour le groupe. Nous avons rejoint, nous adhérons à la Convention des entreprises pour le climat. Nous avons signé un partenariat avec Kiloutou, donc pour aussi ne pas aller que dans, on a un plan produit de développement de produits, de machines 100% électriques. Nous avons également avec Kiloutou, nous menons une expérimentation pour le rétrofit, parce que nous pensons qu'à terme, il y aura également des besoins de rétrofit de machines thermiques qui arriveront en fin de vie dans les passer en électrique. C'est à la fois bon pour en termes d'économie circulaire et aussi économiquement pour redonner une deuxième vie à ces machines. Et nous faisons un test sur ici un chariot télescopique grande hauteur avec Kiloutou. On the way up, le 6 juillet dernier, notre troisième édition sur notre évolution, sur nos enjeux de durabilité, sur nos engagements, sur là où nous en sommes et là où nous voulons aller, donc à la fois vraiment à l'ensemble des parties prenantes. Le replay est bien sûr disponible sur YouTube ou sur notre site internet. N'hésitez pas, si vous voulez avoir aussi plus d'informations sur notre engagement et notre trajectoire RSE. En termes de produits, nouvelle gamme de chargeuses compact, donc ça c'est un événement absolument majeur comme les chariots télescopiques que nous avons lancé à Conexpo. Donc Conexpo est un grand salon de la construction aux États-Unis. Ces chargeuses que vous voyez en haut à droite et les chariots télescopiques qui sont juste en dessous, qui ont un design spécifique pour le marché américain, sont produites pour les deux sur nos deux sites américains, qui sont des sites qui sont sur lesquels nous avons investi pour leur accroissement en termes de taille, de capacité. Et nous avons lancé ces nouveaux modèles, voilà, un très bon feedback client. Et à partir du 1er octobre, commence sur un des deux sites, donc sur le site de Madison, la production de ce nouveau modèle, de ces nouveaux modèles de chargeuses compactes pneus et chenilles avec une plateforme commune. Alors, ce n'était pas une plateforme commune, donc pour une optimisation industrielle et pièces et coûts. Et en janvier prochain commence la production et la livraison des chariots télescopiques sur le site de Yankton à destination de lui du marché américain. Les chargeuses qui sont sur Madison sont à destination du monde entier, des US évidemment, mais du monde entier également. Nous avons aussi des modèles électriques nacelle qui avait été présenté à la Bauma à Munich en octobre 2022 à destination du marché américain. Nous avons aussi fait des modèles du marché européen, excusez-moi. Nous avons également fait des versions américaines de ces deux modèles électriques, la TJ60 et la TJ46E, et qui sont à destination du marché américain, comme la 625 électrique. Donc, la gamme électrique présente à la Bauma a été aussi américanisée. Des questions, c'est pas beaucoup de changements, mais quand même, en termes de normes, d'équipement, d'appellation, etc. Et ont été lancées également à Conexpo en mars 2023. Innovation, on a été classé par les échos, et c'est spontanément, hein, ce n'est pas une demande de Manitou, mais 23e sur les 200 leaders français de l'innovation. Donc c'est une fierté que nous avons, une fierté pour les équipes de Manitou qui travaillent tous les jours à apporter de la différence et de la performance et de la technologie dans les machines et services Manitou. Nous avons également été récompensés à InnoSpace 2023 sur des mini-sticks que nous avons de commande, sur les stop and start qui sont très connus dans la voiture, mais sur lesquels nous avons été les pionniers dans nos métiers et dans nos machines pour apporter à la fois confort et économie et baisse de TCO, baisse de consommation, baisse d'émissions de CO2 de nos machines. Nous avons également reçu le prix de l'industrie durable par l'usine nouvelle qui a salué le travail que nous avons fait, que nous avons présenté, que nous vous avons d'ailleurs annoncé lors de la clôture de 2022. C'est le premier chariot télescopique prototype à hydrogène, à pile à combustible, une première mondiale. C'est un prototype, il sera commercialisé en 2026, mais c'est un événement qui a été salué par l'usine nouvelle. Par ce trophée. Nous avons également dans la catégorie machines et équipements industriels, voilà, qui est une catégorie qui est dans laquelle nous sommes classés par le magazine Capital en 2023, la première place des entreprises préférées des salariés. Là, c'est une grande fierté pour nous, pour tous les collaborateurs de Manitou, d'avoir cette reconnaissance sur notre engagement et ce que nous faisons au quotidien pour l'entreprise. Nous avons gagné des parts de marché dans la partie agricole en France. Pour la troisième année consécutive, on est à la première place. Nous avons le Grand Prix des Chantiers de France pour la gamme lourde sur les grosses MRT, donc les machines rotatives 100% électriques. Vous voyez que l'électrique et l'hydrogène sont largement mis à l'honneur aussi par les journaux, les spécialistes, les salons qui nous regardent et qui regardent l'ensemble de la concurrence. D'ailleurs, la 160 ATJ-E, donc une nacelle 100% électrique de 16 mètres, hein, donc qui a été lancée cette année, a été élue produit de l'année à l'IAPA. Donc là aussi, encore une reconnaissance très forte sur ce produit. On avait démarré en nacelle il y a déjà 3 ans avec la 20 mètres. Maintenant, la 16 mètres et la 18 mètres ont été lancées et elles sont produites de l'année cette année pour l'année de lancement. L'activité du S1, l'effet marquant, 1,4 milliard. Je passe rapidement, Hervé vous présentera les chiffres plus en détail dans quelques instants. Donc 1,4 milliard, 33% de croissance par rapport à 2022. Donc un semestre très dynamique, des prises de commandes, elles qui sont en retrait, on reviendra sur les raisons de cela avec notamment un carnet qui est profond à 3 milliards 61 et des lignes qui sont arrêtées, des prises de commandes qui sont arrêtées sur certaines lignes 2024 étant sur certaines lignes déjà intégralement en carnet. Un résultat opérationnel courant forte progression à 88 millions, à 6,3% du chiffre d'affaires contre 4,3% l'année dernière. Un résultat net à 63 millions. Un EBITDA qui est à 114 millions, donc on a 8,1% du chiffre d'affaires sur ces 6 premiers mois de l'année. Donc là aussi une progression forte. Et accompagnant cette croissance et un nombre de work in progress dans nos machines, puisqu'il y a encore des machines avec des problématiques de composants, encore, vous allez me dire, certains secteurs disent que ça va mieux. Oui, ça va mieux, mais on en a encore beaucoup. Et notre dette nette augmente de fait à la fois donc de BFR, des WIP, et on reviendra dans les chiffres dessus, à 387 millions, avec un leverage qui reste tout à fait raisonnable. Sur le chiffre d'affaires, je vais peut-être passer rapidement en passant directement au semestre. Si vous avez des questions sur les trimestres, je vous propose qu'on l'aborde lors de la session de questions-réponses. Le chiffre d'affaires du semestre, lui, vous voyez, donc 1,4 milliard, c'est 1,2 milliard pour la division produits et 200 millions pour la division services. Quand nous le regardons en termes de progression, vous voyez qu'on a une dynamique très forte partout. Hein. Alors, on pourrait dire le service aux États-Unis est resté flat, hein, moins 1 million, mais vous voyez qu'on a notamment une division produit qui repart très fort à la hausse, 39% de croissance. On vous le dit régulièrement, on a le carnet de commandes et on fait des efforts pour, dans une supply chain très compliquée, mais à chaque fois augmenter nos capacités, nos rythmes de production quotidien. Bah, petit à petit, on y arrive. On a eu des progressions en Q2 l'année dernière, en Q3 l'année dernière, en Q4, en Q1, en Q2. On continue dans cette progression, 39%. On est pénalisé sur la division produit, sur notamment la partie rental et la partie attachment. Hervé reviendra dessus et on est à 5% de croissance sur ce semestre sur la division services et solutions. Voilà, 33% de croissance. Et vous voyez, quand on regarde nos zones, que toutes les zones sont très dynamiques, notamment les États-Unis, hein, qui deviennent à chaque fois plus importants pour nous. Une dynamique qui est forte partout dans le monde dans ce premier semestre, avec un impact change qui est très limité, hein, 8 millions, et périmètre qui est très limité également. Donc, peu de commentaires ici, nous sommes à 33% au total. Un niveau de prise de commande, donc, qui descend à 287 millions. Donc, on voit que c'est à peu près 630 millions sur le semestre que nous avons. Donc, au-dessus de ce qu'on avait avant le boom de 2021 et 2022. Mais en dessous de ce boom, justement, avec un carnet de commandes qui nous emporte jusqu'à fin 2024 sur certaines lignes, qui enfin réduit. Hein, je rappelle que c'est pour nous, les niveaux que l'on avait sont des niveaux absolument anormaux, qui nous poussent trop loin, qui poussent trop loin nos lead times. Et aujourd'hui, à 3 milliards, nous revenons un petit peu. C'est encore trop long. On espère que ça va continuer à baisser un peu sur la partie du second semestre, mais on a encore un carnet de commandes relativement profond. La division produit, donc des niveaux de production qui sont forts, la fluidité de la supply chain qui s'améliore, une baisse de l'inflation aussi, et on verra sur les chiffres en termes de performance ou économique, qui nous permet, entre la production, la fluidité, l'efficacité et l'inflation, d'améliorer significativement la rentabilité. La profondeur du carnet nous pénalise. Les incertitudes sur les marchés, bien sûr. Hein, je pense que on a tous des question marks. C'est pas obligatoirement un avenir sombre, mais c'est un avenir plein de points d'interrogation sur certains secteurs, sur certaines zones géographiques, avec un très fort rebond de l'activité. La supply chain s'améliore, je l'ai dit. Il y a toujours quelques sujet de machines avec des composants manquants qu'on espère voir se résorber au cours du second semestre. Sur la division services et solutions, une croissance de l'activité, l'acquisition de Jerry, je l'ai dit, le renforcement des moyens, on a parlé des investissements, une pression sur les marges que nous voyons, la flotte locative, elle a insuffisamment été renouvelée, notamment parce que on a, comme pour nous-mêmes, comme pour tous nos clients, on était limité par la capacité à produire et on a servi beaucoup plus l'extérieur que nous-mêmes. Peut-être que c'est on aurait pu dû équilibrer, mais du coup, notre flotte locative était moins présente pour louer à des clients finaux. L'impact des coûts partagés avec la division produit, ça c'est une question d'allocation, une question technique sur laquelle on pourra revenir, mais qui pénalise une partie de structure de coûts fixes de manière purement mécanique. Hervé pourra revenir dessus si vous avez des questions. Et je passe la parole à Hervé.
Oui, bonjour à tous et à tous. Sur le compte de résultat, donc les éléments qui sont importants, c'est de constater qu'on a une remontée de la marge sur coût des ventes. Hein, donc je vais la décrire par le bridge et un très fort levier. Sur le résultat opérationnel courant. Donc, c'est une grande satisfaction de voir que la marge opérationnelle commence à retrouver des niveaux de rentabilité plus proches de ce qu'on connaissait avant la crise, avant l'inflation et la crise du Covid. Pas d'éléments particuliers à commenter. Hein, donc, un résultat net par le groupe qui et plus que multiplié par deux sur le semestre. Les comptes de résultats par division, donc là, effectivement, il y a un contraste qu'il faut commenter. On a une division produit dont la marge opérationnelle passe de 2,6 à 6,2%. Donc ça, on est reprise d'activité, augmentation des prix de vente, réduction de l'inflation, volume supplémentaire, maîtrise sur les coûts. Donc ça, c'est un effet levier qui est très fort et qui permet de créer cette amélioration. La division SNS, elle, sur le premier semestre, N-1, connaît alors facialement une baisse importante de son niveau de marge opérationnelle de 12 à 6%. Donc, on a deux sous-composantes dedans. On a d'une part la moitié de cette variation pratiquement est liée à la mise en place de moyens complémentaires, ressources, accompagnement. La division services et solutions, c'est celle qui accompagne, une fois que les produits sont vendus, tout ce qui est service après-vente, relation avec les clients, etc. Et nous sommes dans des phases de lancement de nouvelles gammes de façon très importante, de nouvelles technologies, de projections internationales. Nous avons un plan de développement produit qui est très important. Donc, tout ça nécessite de la ressource pour pouvoir accompagner ce que l'on voit dans la ligne CAPEX, dans la ligne recherche et développement au niveau de la division produit. Ça se traduit après par des frais fixes dans l'accompagnement au quotidien de nos clients pendant un certain nombre d'années. Donc ça, c'est la moitié de cette pression sur la marge opérationnelle. Et l'autre moitié, c'est nous sommes dans un groupe, les services sont partagés. Dans toutes les organisations, il y a des gens qui font, lorsqu'on est surtout dans les filiales de distribution, du service et des produits. Donc, c'est un phénomène de location, de frais généraux entre les deux divisions. Et la division produit a une très forte croissance de son activité. Mais ça se répercute indirectement sur la division SNS. Voilà, c'est cet élément de lecture que l'on peut partager sur la rentabilité pour la division SNS. Sur l'évolution de la marge opérationnelle. Donc là, on se retrouve avec un graphique qui, où de nouveau, la marge qui était à 4,3 au S1, forte amélioration liée au volume et au mix, 5,4 points de base. Et puis après, évolution des prix de vente par rapport à l'inflation de la matière et de la main-d'œuvre. Là, on est dans un schéma à l'opposé de ce qu'on avait connu sur l'exercice 2022, c'est-à-dire que enfin, hein, après avoir mis en place depuis le début de 2022, fin 2021, début 2022, des hausses de prix successives sur l'ensemble de nos produits, après avoir variabilisé les prix de vente pour pouvoir sécuriser les niveaux de marge, nous arrivons maintenant enfin à nous retrouver dans une configuration où les prix de vente au global, l'amélioration des prix de vente couvre plus que l'impact de l'inflation qui continue à courir. Il y a un effet report de l'inflation et permet de rétablir une partie de la marge. Alors, cette dynamique, on l'avait peut-être plus attendue sur une séquence S1, S2 plus marquée. Hein, vous avez commenté, j'avais dit à plusieurs reprises que le profil de rentabilité entre le S1 et le S2, on verrait un S1, une légère amélioration et puis une forte accélération sur le S2. Il se trouve que la gestion de notre portefeuille, les actions qui ont été menées de commandes, les actions qui ont été menées d'une part, et puis d'autre part, l'accélération du ralentissement de l'inflation, voire la baisse dans de certaines matières et composants, sont intervenus plus vite que ce que nous avions anticipé. Donc, on se retrouve dès le S1 avec ce phénomène qui permet de couvrir plus que l'inflation. Donc, ça, c'est une grande satisfaction. Hein, ça confirme notre feuille de route où nous sommes arrivés plus vite que nous voulions, là où nous souhaitions. Et ça se traduit sur ce graphe. Sur les autres éléments, mais écoutez, tout ce que l'on voit, c'est l'accompagnement de la croissance que nous avons sur l'ensemble de nos marchés. Sur le bilan, donc, on se retrouve à fin juin avec un besoin en fonds de roulement qui est de 885 millions d'euros, donc en croissance de 32%. Donc, on a une forte de notre chiffre, pas en croissance, qui représente 32% de notre chiffre d'affaires. Nous étions à 28 de à 30% au mois de décembre. Donc on est vraiment dans la fourchette haute de ce que représente le BFR sur notre chiffre d'affaires en ratio. L'élément le plus raison, il y a deux éléments par rapport à ça. On a d'une part notre séquence de chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre n'a pas été linéaire. On a eu un mai moyen, un juin en accélération et avril moyen, mai en accélération et un mois de juin très très fort. Donc une facturation intervenue plus tôt en fin de trimestre du fait de la libération d'un certain nombre de machines qui étaient bloquées pour des composants. Donc ça veut dire que tout ce qui est facturé mécaniquement ne peut pas être encaissé. Et puis d'autre part, on le verra plus tard, les stocks qui ont augmenté de façon importante. Pas d'autres éléments sur cette page à commenter. Sur le cash flow, il n'y a qu'une ligne qui est à vraiment pointer. Enfin, deux lignes. On voit que la capacité d'autofinancement effectivement est plus importante. Et nous constatons également que la variation de BFR qui consomme le cash, c'est le stock. Le stock augmente, le poste fournisseur lui n'augmente pas, donc ça crée un double effet. Et ce double effet, il va se traduire, on le voit très nettement sur la page d'après, par l'accroissement, on le verra plus tard, par l'accroissement de notre dette. Sur nos capex, des capex qui sont en deçà de ce que nous attendions, toujours une inertie à mettre en place un certain nombre d'actions. Nous avons annoncé entre 150-180 millions d'euros de CAPEX pour 2023, donc on n'arrivera pas à tout faire. Le S2 sera plus important du fait de la finalisation de nos investissements aux États-Unis. On a deux extensions de sites de production qui sont en cours et donc on aura une séquence avec une accélération sur le S2. Et puis enfin, sur l'endettement, donc une dette nette à 387 millions d'euros, donc c'est une forte augmentation par rapport à la fin de l'année. On a historiquement, généralement, une dette à mi-année qui peut de façon assez fréquente être plus élevée qu'en point de sortie fin d'année. C'est ce que l'on retrouve. Et là, on retrouve donc, on a un levier qui augmente légèrement. On est à 2,2, donc on reste dans des ratios qui sont tout à fait supportables et qui sont la conséquence d'une croissance dont on se réjouit.
Très bien. Merci. Donc, en termes de perspective, on a un effet de base assez significatif sur l'année 2022 sur notre chiffre d'affaires. Et donc, on continue à anticiper comme préalablement une progression de l'ordre de 20% de notre chiffre d'affaires sur l'année 2023 par rapport à 2022. Et l'amélioration plus rapide qu'a mentionné Hervé nous amène à avoir un résultat opérationnel courant que nous anticipons supérieur à 5,5% du chiffre d'affaires, donc en amélioration par rapport à notre publication précédente. Voilà pour la présentation. Je vous remercie.